Nicolas Villas ce soir n'est pas là, il est malade le pauvre chéri. Alors du coup je
il récupère.
Écoute, il était pas bien hier.
Il était pas bien.
Nicky Beach. Hein.
Ouais. Il récupère.
Ça vient d'où Nicky Beach?
Oh, je sais pas, Nicky.
Nicolas,
voilà. Nicky. Je fais un peu tous les Nicky en ce moment le concernant.
Beach ou Beach?
Non,
c'est biche, okay.
23h02.
Non, mais ça aurait pu être un
comme tous les lundis.
Encore une métaphore.
C'est l'heure des drôles de dames. Et ils sont là. Alors, à côté de moi, là, mon petit Lorto de retour de vacances.
Tranquille.
Bah, quoi, comme la Bundesliga.
Un mois cette année, c'est pas énorme, un mois.
Ah oui, vous avez joué,
c'est une promotion de le voir là à côté de toi ou c'est juste le hasard?
Tu rêves d'être à ma place.
Tu le sauras à la fin de l'heure.
Enfin, c'est pas vraiment ta place, là.
Ouais, allô, Freunde, salut à tous.
Salut David. Simone Rovera nous rejoint. Simone, bonsoir.
Ciao, buonasera, bonsoir.
Oh, il était beau celui-là.
Il est en forme.
Tu l'as travaillé celui-là.
Il est en forme. J'ai travaillé, voilà.
L'Inter a gagné.
Non, elle a perdu.
Ah bah merde alors.
Lourdes à domicile.
Mais il y a plein de choses à dire.
C'est un ton d'Inter qui a gagné.
Julien Laurence, à Londres. Salut Julien.
Salut à tous, good evening.
Salut Julien.
Et Fred Hermel, bien sûr, à Madrid. Salut Fredo.
Hola chicos.
Ah,
j'ai mal au ventre.
Pierre Ducrot est là, Daniel Riolo est là et Vincent, notre premier finaliste de l'After Academy.
Bienvenue Vincent.
Messieurs dames, attention. Bien. Il peut à tout moment vous interpeller, vous poser une question, voire même contester vos affirmations de spécialiste du football européen. Mais pour ça, faut avoir les arguments. Évidemment. Attention les avis du sort, on va démarrer par l'Angleterre si vous le voulez bien, d'autant que Liverpool jouait ce soir. Jingle Julien Laurence.
It's an amazing game, it goes 1-0 up for France, 1-1, Messi scores, and Kylian Mbappé, out of nowhere, scores the winner for France.
J'adore.
Tu peux refaire juste le out of nowhere.
Out of nowhere.
Ah mais, ce que je remarque à chaque fois que je viens, c'est ce petit accent londonien qui fait sa petite diff.
Son charme.
Ouais, ça fait longtemps que je suis là quand même.
Tu vis où à Londres?
15 ans. J'ai dans le nord de Londres, à Winchmore Hill.
Mm-hmm. Je connais pas. Et là, Daniel
Riolo va demander,
t'es propriétaire?
Ah oui, c'est vrai.
Non, à Londres, il n'y a même pas besoin de poser la question, il peut pas l'être.
Bah, tu as su,
non, il est pas propriétaire à Londres.
Dis que t'es propriétaire,
si, mais tu prends un prêt pour longtemps.
Ah, mais t'as décidé de rester là-bas toute ta vie, alors?
Ah oui, bah oui, les enfants sont nés ici.
Ah, d'accord.
On est bien, on est bien ici.
Tu loueras si tu t'en vas, c'est pas grave.
Bah oui, exactement.
Alors, ton avis du soir concerne Pogba, mais juste avant, j'aimerais quand même qu'on dise un mot de Liverpool, parce que c'est terminé un partout entre West Ham et Liverpool. En un mot, Julien.
En un mot, effectivement, ils ont encore perdu des points. On l'avait vu en milieu de semaine contre Leicester à domicile. Là, à l'extérieur, à West Ham, ils ont encore une fois pas bien joué. Mo Salah, par exemple, n'a pas été très bon encore une fois. Si on regarde, la statistique la plus intéressante, c'est que lors des 20 premières journées de Première Ligue cette saison, ils ont laissé que 6 points en route. Ils étaient quasiment invincibles, ils étaient quasiment imperturbables. Sur les 5 derniers matchs championnat, ils ont déjà perdu 7 points. Et ils avaient l'occasion, on se rappelle, hein, de prendre 7 points d'avance sur Manchester City avant le match de Leicester. Et aujourd'hui, ils en sont qu'à 3 points d'avance.
À chaque fois qu'ils ont une bonne occasion, on a l'impression qu'ils ratent un peu le truc. Tu crois qu'ils pourraient être victimes d'une forme de pression de ce titre qu'ils attendent trop et qu'on leur donne les yeux fermés?
Ouais, tout à fait.
Tu crois à ça,
d'accord avec toi, et rappelle-toi, moi j'y crois, et rappelle-toi, on en avait parlé après le match de Leicester.
C'est ce qu'il avait dit, mais tu lui as chopé le truc.
Non, mais bravo. Tu vois, on avait tous trouvé que c'est surtout les supporters aussi à Anfield, ils avaient tous la tête ils avaient l'air tous super stressés, super paniqués à l'idée de juste prendre un point contre Leicester, ce qui permettait quand même à Liverpool de prendre 5 points d'avance à ce moment-là sur Manchester City. Et c'est vrai que tu sentais cette pression dans le stade, c'était assez incroyable. Et on va voir. Ça, de toute façon, l'une des clés de cette fin de saison, ça va être comment ils vont gérer cette pression d'être de faire le chemin en tête de la Première Ligue et d'être chassé derrière par City. Et de deux, voir comment effectivement ces 29 ans d'attente pour un nouveau titre de champion d'Angleterre, comment ça va peser mentalement, physiquement aussi, techniquement, comment la Ligue des Champions, si la Ligue des Champions va avoir un impact ou pas, ça va vraiment être intéressant. Mais tu sens que la pression, elle est là. Tu vois, Klopp ce soir sur le banc de touche, tu le sentais aussi stressé, et c'est vrai, ils vont peut-être avoir du mal avec ce côté-là.
En tout cas, cette fin de saison est absolument passionnante, avec plein de différents virages que les uns les autres.
On va y revenir à la course.
Moi, je voulais juste demander à Julien sur Liverpool comment il les trouve physiquement aussi. Tu les trouves notamment devant, je trouve. Ils ont pas le jus qui leur permet de faire la différence d'habitude.
Je commençais à m'intéresser avec Firmino, le Liverpool Bayern qui vient.
Non mais t'as raison, Lorto, hein, t'as raison. Ça va, sincèrement, c'est C'est un peu bizarre depuis la période des fêtes et le Boxing Day, etc. Tu sens que physiquement il marque le pas et tu vois un joueur comme Firmino par exemple. Autant Salah il arrive quand même à marquer des buts même s'il est pas à 100% physiquement, mais Firmino par exemple, il y a des matchs comme celui de ce soir où il est complètement inexistant, complètement inexistant.
Il a pas de pied gauche.
En ça c'est pas la fatigue hein, mais
non parce que j'ai vu 2-3 actions, il a pas de pied gauche. C'est excellent ce mec, il a pas de pied gauche.
Bah, les gens n'avaient pas de pied droit.
Ouais, mais les gauchers n'ont pas de pied droit, ça c'est cool.
Tu voulais parler de Pogba, c'est ton avis du soir, alors on t'écoute parce que dans une semaine, évidemment, c'est Manchester PSG, Julien.
Ouais, tout à fait. Et mon avis tranché du soir, c'est simplement, c'est pas sorcier non plus, mais c'est que pour moi, il est le meilleur joueur en Première Ligue en ce moment, actuellement. Depuis l'arrivée de Solskjaer, c'est un tout autre Paul Pogba qu'on voit sur les terrains, comparé à celui, bien sûr, qui évoluait sous José Mourinho. Il a été impliqué sur 11 buts en championnat depuis l'arrivée de Solskjaer, donc le 22 décembre. 6 buts et 5 passes décisives. C'est plus que n'importe quel autre joueur dans tous les 5 grands championnats européens. Personne n'a fait mieux. Son de Tottenham est deuxième avec 10 buts. Donc entre passes décisives et buts inscrits. Voilà, je trouve que Pogba il est revenu vraiment à un niveau assez incroyable, même encore au-dessus de celui qu'il pouvait montrer à la Juve, parce qu'il défend plus qu'il défendait avant, il est beaucoup plus impliqué offensivement, je viens de le dire.
Tu peux dire dans quel poste qu'il évolue réellement, vraiment là, de position et tout?
Donc quand ils ont pas le ballon, il évolue sur le côté gauche d'un milieu à 3, il y a aucun doute là-dessus. Si tu regardes ses
hit traps,
là où il touche le plus de ballons, Matic dans l'axe et Herrera un peu plus à droite. En revanche, quand ils ont le ballon, là tu sens vraiment qu'il a la liberté, même s'il reste plus sur le côté gauche parce que je pense que c'est vraiment là qu'il a ses repères, tu sens qu'il a plus de liberté pour aller un peu là où il le souhaite. Et si tu vois là où il récupère le ballon par exemple sur le but à Leicester samedi, il est très haut, il est un peu plus dans l'axe et tout de suite il cherche Rashford dans la profondeur en une touche mais après son contrôle. Et voilà, il a gagné en spontanéité. Je trouve que physiquement, on en parlait avec Pierrot hier soir, on n'était pas trop d'accord, mais lui en tout cas physiquement
sur Pogba, si je te rejoins, Julien, c'est le seul pour moi qui a fini le match aussi fort qu'il l'a commencé quasiment.
Voilà, c'est vrai, et c'est le seul qui arrive à tenir ses temps forts pendant quasiment toute la durée du match, contrairement aux autres. Mais voilà, je trouve qu'il est vraiment dans une bonne période. Il est la paternité aussi, puisqu'il a eu un enfant il y a pas très longtemps. Je pense que l'a beaucoup fait évoluer mentalement, et tu sens vraiment qu'il arrive à maturité, une maturité qu'on avait déjà vue avec l'équipe de France pendant la Coupe du Monde. Mais là, en club, c'est vrai que moi, même à la Juve, je me rappelle pas l'avoir vu à un tel niveau. Alors après, il faudra confirmer encore un peu plus sur la durée. Hein. Ça fait que depuis le 22 décembre et l'arrivée de Solskjaer, mais tu sens quand même qu'il a passé un palier à tous les niveaux.
Simonet, par rapport à la Juve, t'es d'accord?
Il était aussi déterminant, mais...
Non, mais là, il est plus patron maintenant.
On lui a toujours reproché d'être pas capable de prendre l'équipe sur ses épaules après le départ de Pirlo, de Vidal, etc.
Il était plus jeune
et là,
aussi.
Il était plus jeune et il était plus tolier à la Juve.
C'est ça, il n'avait pas le même statut là-bas.
Des personnalités,
mais là, ce que ça dit, Julien, c'est quand même fou parce que Pogba est maintenant excellent alors que pas bon. Sous Mourinho, ça pose toutes les questions sur le management,
une certitude, hein.
Une sorte de désaveu pour Mourinho, c'est genre t'as pas réussi ou de toute façon c'est clair, tu tenais pas ton équipe. Là maintenant évident.
Tu sais d'ailleurs quand tu regardes
et de l'autre côté, tu dis en gros quand t'as une vedette dans ton équipe, l'entraîneur est obligé de construire autour de lui. Alors c'est pas nouveau, hein. Ça a quasiment tout le temps existé, ce genre de choses.
Ouais,
il faut quand même savoir le doser, tu vois, ce truc-là.
Mais je suis même pas sûr que Solskjaer le met dans une position de vedette. Il le laisse libre, c'est tout.
Où est-ce que tu préfères jouer et tout. Je pense qu'il s'est appuyé.
Moi, je pense qu'il le savait déjà où il fallait le faire jouer.
Oui, mais je pense qu'il a quand même créé un lien avec lui, je pense.
Là, il est carrément en 10.
Comme Tuchel fait avec Neymar, comme, tu vois, aujourd'hui, ce genre de lien très affectif entre joueur et entraîneur, ça a pu exister parce que même Mourinho l'a fait à l'époque de l'Inter.
Mais tu veux que je te dise?
Moi, je pense que deux et d'être
je pense
proche
que Pogba c'est... que Pogba n'est pas du tout difficile à manager, justement. Moi je pense qu'à un moment donné, quand tu lui laisses un tout petit peu de liberté et qui peut se lâcher, en fait, que tu ne le tiens pas avec les rênes tout le temps comme le faisait Mourinho, ou que tu rentres pas dans un duel d'ego avec lui,
parce
que lui s'en fout de ça, en fait, et ça ne l'intéresse
difficile.
Pas. Je pense
pas
que c'est très facile,
qu'il y a
finalement
eu de gros problèmes avec Mourinho qui aujourd'hui paraissent évidents. En gros, l'équipe n'avance pas, Pogba il est nul et il s'en va, l'équipe avance et Pogba est excellent, c'est le meilleur joueur de l'équipe, voire quasi du championnat. Ça pose beaucoup de questions sur le management, c'est intéressant.
Déjà,
ce qui est marrant,
c'est que Solskjaer, il y a confirmation.
Julien.
c'est ce qui est marrant, c'est que Solskjaer au mois d'août, alors qu'il était l'entraîneur de Molde à l'époque, qu'il avait aucune idée qu'un jour il serait entraîneur de Manchester United, avait dit dans une interview, moi si j'étais à la tête de cette équipe de Manchester United, je construirais toute mon équipe autour de Paul Pogba.
Bah voilà. C'est évident, le potentiel
donc,
qu'il a.
C'est évidemment, évident. Voilà. Et donc c'est vrai que c'est un joueur qu'il a eu quand il était coach de la réserve, donc c'est quelqu'un qui connaît depuis très longtemps. Il avait déjà eu un rôle très important à cette époque-là quand Pogba était arrivé à Manchester, parce que un, il était jeune, et deux, il était très impatient déjà à l'époque de vouloir jouer avec l'équipe première. Et Sir Alex à l'époque faut le dire, hein, le calculait pas trop, et c'était Solskjaer qui l'avait calmé parfois, qui lui avait dit de prendre son mal en patience, de continuer à travailler, etc. Donc il avait déjà eu un rôle très important à cette époque-là, il y a presque 10 ans. Et aujourd'hui, dès que Solskjaer est venu, tous les Anglais ont ressorti cette déclat du mois d'août en disant bah voilà, maintenant on va voir s'il est capable de construire effectivement son équipe autour de Pogba. Bah c'est exactement ce qu'il a fait.
Alors une chose, la question un peu,
on parle de City Arsenal, vas-y.
C'est l'inverse. Est-ce que Pogba a eu un rôle dans la venue de Solskjaer, vu l'importance qu'il y a Pogba aujourd'hui pour Manchester?
Oh non, je pense pas.
Aucun. Il l'a appris comme tout.
Vraiment
comme
tordu, ce Simonet, c'est incroyable.
Tard,
c'est très italien. Alors, si tu vois,
quel vice
peut choisir.
Mais Paul Pogba, il était sur le banc, sous son bonnet, dans sa parka, il disait plus rien depuis 2 mois. Et non.
Bon, City Arsenal, là, qu'est-ce que tu retiens, là?
Après le triplé d'Agüero,
ouais.
Un triplé chez les Argentins, un triplé parfait, hein, un but du pied droit, un but de la tête, un but de la main gauche. Parfait. C'est plutôt
c'est argentin.
C'est argentin, voilà, c'est le triplé chez les autres, c'est pied droit, pied gauche, tête, eux c'est main gauche, pied droit, tête. Non, plus sérieusement, c'est le 10e de la carrière d'Agüero en Première Ligue.
Maradona, c'était
pour
main
vous
droite,
donner un peu. Non, main gauche,
main gauche.
Ah, Marda, main gauche. C'est plus facile de sauter de marquer avec la bonne main.
Autant j'ai oublié son goût que la main gauche de Marda, non.
Mais, sérieusement, pour vous donner, par exemple, pour bien mesurer l'importance de ce chiffre-là, les dix triplés d'Agüero en Première Ligue, c'est autant que, c'est même plus que Cristiano Ronaldo, Eric Cantona, Dennis Bergkamp, Jürgen Klinsmann et Gianluca Vialli, par exemple, tous réunis, qui eux ont fait que un triplé chacun. Et voilà, lui en est à 10, seul Alan Shearer a fait plus avec 14, donc il est même capable de le rattraper à un moment ou à un autre, mais c'est vrai que c'est le Agüero, par définition, qu'on a vu hier contre Arsenal. Alors certes, la défense d'Arsenal l'a bien aidé, mais il est au bon moment, au bon endroit. Encore une fois, on en parlait avec Pierrot hier, et c'est le genre de but qui sont façonnés par Pep Guardiola. Si t'avais eu Agüero avec un maillot, je sais pas moi, rouge on va dire, ou vert, ou n'importe quelle couleur, t'aurais su que c'était quand même Manchester City, parce que la manière dont ces buts sont construits, la manière dont ils arrivent, ces centres dans les 6 mètres, en retrait, en première intention, c'est les buts les plus fréquents que Manchester City marque depuis l'arrivée de Pep Guardiola.
Julien, tu restes avec nous.
Je voulais parler de ce match-là, moi.
Ah, alors, vas-y, il y a une question, puis après
Bon, City a dominé le match, comme tout le monde a vu, mais a joué par à coup quand même. Sur Arsenal, qui est, je crois, ton équipe, enfin, tu regardes un peu avec ton cœur aussi.
Ouais, ouais.
Il n'y a pas vraiment d'évolution dans cette équipe, notamment pour une chose claire. Bon, l'entraîneur, on pourra en parler. Moi, je trouve que son attitude, elle dégage toujours pas, elle dégage pas grand chose de très rassurant. Mais après, les joueurs, enfin, globalement, c'est assez faible, quoi, cette équipe. Je sais même pas comment on peut envisager ou dire ils peuvent jouer le top 4, parce que tu regardes leur défense, t'as pas un grand joueur au milieu, ça reste c'est globalement faible. T'as juste devant Aubameyang
et encore
le duo qu'on essaye de construire, la Lacazette Aubameyang,
et encore sur un match comme City ça pèse très peu.
Mais l'équipe elle est globalement faible, quoi, en termes d'individualité, tout simplement, cette équipe d'Arsenal, non?
Ouais, t'as raison. Pas. Alors, je pense que
tu joues avec Steiner qui a 45 ans, et Koscielny qui est un peu fini. Comment s'appelle
Montréal,
le mec à gauche? À chaque fois,
Montréal, Kolasinac.
Voilà, c'est lui. À chaque fois, j'embrouille son nom. Kolasinac. Ça, c'est pas terrible, tous ces joueurs-là.
Non, mais t'as raison.
Et au milieu de terrain, excuse-moi, Fred, il y a Matteo Guendouzi, qui est très très jeune, qui vient de Lorient.
Qui a 19 ans, ouais.
C'est un
futur grand.
Qui fait justement un mauvais match.
Non, mais c'est un monde, quoi.
Ça devrait pas être celui que tu vois en premier, Arsenal.
Tu trouves pas, toi, Julien, ton équipe?
Si, je suis d'accord avec toi.
Que disent les supporters d'Arsenal, les suiveurs de ce club qui sont très nombreux? On rappelle que c'est un des clubs historiques de l'Angleterre, Arsenal, quand même.
Alors, sur Arsenal, ta réponse, Julien.
Je fais rapide, promis Gilbert, y a ceux qui pensent que Emery peut pas faire de miracle avec l'effectif qu'il a, un effectif qu'il a hérité de d'Arsène Wenger, et dans cette année de transition, il pouvait pas tout changer d'un seul coup, en, par exemple en vendant 10 joueurs et en rachetant 10, c'était pas possible financièrement, et puis de toute façon c'était compliqué de vendre ces joueurs là aussi. Donc petit à petit, il va essayer de faire cet écrémage et de d'amener du sang neuf et des jeunes joueurs et des nouveaux joueurs, mais c'est pas facile. Donc il y a la partie des supporters qui pensent que il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, et c'est pas facile, comme tu viens de le dire, en rappelant le genre de joueur, le niveau des joueurs actuels dans son effectif. Et puis il y a les impatients quand même, qui pensent qu'il devrait faire mieux, qui pensent que, par exemple, le cas Ozil, on pourra en revenir, mais c'est un autre débat qui mettra.
Et Ozil, c'est un débat longtemps. Depuis combien d'années, ouais, Arsenal?
C'est même plus
oui,
un
mais,
débat.
Oui,
c'est
mais Emery, mais
et pas, mais non, et pas Arsenal,
mais pourquoi c'est pas un débat? Ça reste ton joueur le plus talentueux, hein, dans cette
équipe-là.
Oui, mais
c'est vrai, mais qui a été talentueux, qui est talentueux, dix fois par an,
il se passe rien, il est talentueux trois fois par an.
Oui, mais regarde, qu'est-ce qu'on vient de faire Pogba?
Oui, ça commence à faire un peu de bruit en Allemagne.
Non, mais tu vois, on vient de faire Pogba et Solskjaer. On vient faire Pogba et Solskjaer. On vient de dire, bah voilà, on regarde avec Mourinho dans le management. C'est pareil. Un jour, il y aura un entraîneur, ou il devrait y avoir un entraîneur qui puisse aujourd'hui faire en sorte de tirer le meilleur de Mesut Ozil et de son incroyable talent, parce qu'il a un talent incroyable. Ah, il y a aucun
ça,
doute
je
là-dessus.
Sais pas, ça fait trop longtemps que ça traîne. C'est pas la même chose que Pogba, quand même.
Allez, on enchaîne. On rapidement ton top, ton flop du week-end, comme de tradition le lundi. Moi, je garde les traditions de Villas. Hein, je les garde même quand il est pas là. Vas-y.
Oui, bah, t'as raison. Dans mon cador, Heung-min Son de Tottenham, j'ai dit tout à l'heure, hein, lui aussi très décisif, ces dernières semaines, qui marque encore.
Souk.
Le week-end des Coréens. Et chez mon bidon, le chat noir qui a envahi la pelouse de Goodison Park, pour ceux qui l'ont vu à la télévision, sur RMC. Il est resté 3 minutes. Tous les stewards et tous les joueurs avaient peur de lui, d'aller le chercher, etc. Donc 3 minutes, il est quand même resté sur la pelouse. Et il a bien porté la poisse sur son équipe, puisqu'ils ont perdu 3-1 contre Wolverhampton.
Mais ça porte pas bonheur en Angleterre, le chat noir.
Alors, visiblement, ça porte bonheur que si il passe de la droite vers la gauche, un truc bizarre comme ça. Moi, j'ai dit non, ça porte malheur à tout le monde, pas, il n'y a pas de droite ou gauche. Ça porte malheur. Il leur a porté la poisse, ils ont perdu 3-1, ils ont été mauvais comme des cochons, voilà. C'est tout ce qu'ils méritaient.
Mais après, c'est tout mignon, noir. En plus, ce petit chat, là.
C'est vrai.
Bon. Ah oui, mais.
Des chats, des cochons.
Voilà, je crois tellement pas à ces conneries, moi, de chat noir qui passe, de machin. Qu'est-ce que c'est que c'est?
Non, mais c'est quand même rare, tu vois, que le rat, le chat soit, je sais pas d'où il est sorti, mais voilà.
Julien reste avec nous.
En même temps, on se demande bien comment ce chat peut arriver sur la pelouse.
Perry, elle est même. Perry, elle est noire comme ça.
Ah ouais.
Hein? De quoi?
On est content, Simonet, de savoir ça.
Perry, peut-être, hein.
Je ne sais jamais quand on parle de mon chat dans la terre.
Mais Perry,
ça fait longtemps qu'il n'est pas là lundi.
Tu connais pas Perry? Tous les lundis, tu parles de ton chat.
C'est même un jingle.
Ah, donc,
ton chat, il ressemble à ça.
C'est temps que je reprenne le lundi, parce que franchement.
Vas-y, on voit le sur une pelouse. C'est un des, comment on appelle ça, des jingles.
Je vais rappeler des souvenirs à Fred Hermel. Fred, écoute-moi ça. Musique. Tu sais pourquoi on passe ça?
Là non, mais j'aimais bien cette chanson.
Intemporelle.
Arrête de dire que t'aimais cette chanson, ça,
bien sûr. On peut aimer Léo Ferré et avoir apprécié une chanson
Monaco.
Populaire.
Oui, Et bien le fils de Stéphanie de Monaco, messieurs dames, Louis Ducruet, 26 ans, va devenir le bras droit de Vadim Vassiliev à l'ASM.
Oh oui, jeune riche.
Très bien.
Voilà, donc on change les choses à Monaco, ça continue. Donc Emenalo, qui est un mec qui a un peu de bouteille, hein, lui, il y avait toi, non, tu dégages, enfin tu restes, mais...
Non, directeur sportif adjoint.
Oui, voilà, tu seras l'adjoint donc de Ducruet.
Non, même pas.
Non, même pas en fait, il va s'occuper de recrutement.
C'est quoi au départ, c'est le garde du corps de...
C'est le garde du corps de Stéphanie.
Oui, Ducruet. Mmh. Mais tu sais très bien l'histoire, fais pas celui qui connaît pas. Je te jetais sur les revues People.
Donc Louis Ducruet, je voulais vous signaler cette info.
Fois dans les magazines.
Mais j'attendais que Fred Hermel soit là pour lui passer aussi, comme un ouragan.
Ah, la vidéo, je savais pas qu'il y avait la vidéo, je savais qu'il y avait les photos qu'on voyait chez le coiffeur de la piscine, mais
comme un ouragan aussi, il y a le clip.
Ah oui, bien sûr.
Et le clip, c'était quelque chose quand même.
Ah oui.
26 ans, il a. Oui, il a 26 ans, ouais, t'as pas rêvé.
Ouais, il y a un mec qui prend l'after, il y en a qui devient adjoint.
Donc c'était
chacun son chemin.
Ouais, t'es pas le fils de la princesse?
Non.
Bah oui, ça peut aider, hein. Ça peut être un accélérateur de carrière.
C'est une famille de sportifs quand même.
Voilà, ça.
Tu sais, une façon de le défendre.
Tu dis ça pas à la piscine, David?
Non, non, non,
je pensais la même chose. C'est terrible, je pensais la même chose. Je vois la scène, c'est terrible. Certaines résistances.
Dans quelques instants, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, plus le reste de l'Angleterre, bien sûr, c'est l'after jusqu'à minuit avec les droits de l'âme comme tous les lundis. Jusqu'à minuit, nous sommes là avec les drôles de l'âme, avec Pierre Dupro, Daniel Riolo, avec Vincent qui est notre premier finaliste de l'After Academy. Alors, je rappelle bien sûr que sur le compte Facebook de l'After, sur le compte Twitter de l'After, vous avez le nom de tous les finalistes de la semaine, hein, qu'on retrouvera d'ici dimanche, et à la fin bien sûr on fera un choix, il n'en restera qu'un évidemment. Ça va Vincent, tu te sens bien pour l'instant?
Ouais, on rigole plus hors antenne, je trouve, c'est un peu dommage, mais on rate des trucs et tout quand on entend à la radio.
Mais non, toi, il y a plein d'histoires qu'on peut raconter à l'antenne.
Bah oui, bien. On rigole quand Pierre Ducrot passe 5 minutes à rechercher des vieilles photos.
Qu'il ne trouve pas d'ailleurs.
Sous les ordres, bien sûr, de qui? De Daniel Riolo.
Bien entendu. Pas les ordres, les demandes. Voilà.
Non, c'est vrai que c'est exactement.
Attention, jingle Simonet.
Sinon...
Jingle Simonet, on va peut-être parler de son chat, on va voir.
T'as un animal de compagnie, toi, ou pas?
Oui, un chat.
Et à quoi ça sert? Tu lui parles et tout?
Ouais.
Tu dis ça va, Perry? Ouais, t'es content?
Oui. Je l'ai fait jouer, je lui lance les jouets, les petits.
Et là,
ballons.
Ballons.
Ouais, et
ça. Tu le ramènes ou pas?
Non.
Je suis viré de l'after avec.
J'adore le nom. Tu voulais nous parler de la crise à l'Inter?
Oui.
Parce que. C'est ton titre principal.
Oui, c'est la.
C'est la une de la Simone Gazzetta dello Sport.
C'est la une de tous les journaux italiens, aussi de ma Gazzetta, personnelle. Parce que c'est en train de passer quelque chose de inattendu seulement il y a un mois et demi, mais bon, les crises arrivent très vite dans le football, donc c'est pas étonnant. Et après la qualification ratée en Ligue des Champions, on se rappelle ces matchs nuls face au PSV, quand PSV est déjà éliminé et avec une victoire, l'Inter aurait pu être qualifié.
Devant Tottenham,
Spalletti a perdu tous les contrôles, le peu de contrôles qu'il avait dans son vestiaire, pas aidé par certains personnages. J'ai parlé lundi dernier de l'importance de faire au plus vite possible la prolongation d'Icardi. Depuis, après cette élimination, on a commencé toute cette... C'est feuilleton, réseaux sociaux, émissions télé sur la
feuilleton.
C'est pas le panettone, c'est le feuilleton.
Enchaîne Simonet.
C'est pas panettone.
Feuilleton.
Panettone. C'est plus compréhensible, c'est plus italien et ça.
Là, juste pour recadrer, ils sont encore troisième, ils sont encore en zone Ligue des Champions.
Ils ont encore 5 points d'avance.
Oui, voilà. Non, mais c'est pour que le contexte.
Mais j'en ai que 4 moi, Simonet. Là.
Quatre sur la quatrième.
Oui.
Sur la
deuxième, d'accord.
Oui.
Ok.
Et à partir de là, on a dit vraiment, Spalletti a perdu tout le contrôle. Déjà, Icardi qui ne marque plus, il a marqué un seul but à partir de ça sur penalty. Ça fait 6 matchs consécutifs en Serie A qu'il ne marque pas un but.
C'est rarissime pour lui.
C'est la première fois depuis qu'il est arrivé à l'Inter.
Ah ouais.
On parle plus de son contrat que de ses performances qui sont
les deux sont liés.
Si on parle de contrat, on parle de sa femme, qui travaille dans une émission télé très connue en Italie où il va toujours à parler aussi de sa situation.
C'est quoi l'émission
contractuelle? Tiki Taka sur Canal 5. Mais
tu veux que je fasse la recherche, Daniel?
Tu la connais, la femme d'Icardi?
Non.
C'est quoi l'émission? C'est un genre d'affaire italien?
Non, c'est une affaire italienne où il y a beaucoup plus de présence féminine.
Mais sauf que David Lorto est une bombasse à côté de toi. Et pas
que toi-même tu n'es pas Gilbert.
Pierre Ducrot a des seins énormes au lieu de ses pecs ramollos.
Et une autre veste, forcément.
Et où Vincent a une mini jupe à peu près, ouais. Mais certainement pas un t-shirt de l'OL.
C'est elle qui s'occupe de ses intérêts, on est d'accord.
Je vous propose de lancer un sondage pour tous les gens qui nous écoutent.
Je crois qu'il lance un concept.
Est-ce que l'after continuerait à vous plaire si derrière toi il y avait deux nanas un peu pot de fleurs comme dans les émissions d'Italie ou en Espagne?
Oh non.
En Espagne, pas toujours, hein.
Ça se fait encore, Fred, en Espagne?
Non, pas trop. Il y en a une, toujours un prétexte, mais ça a quand même beaucoup évolué. Qu'il y a vraiment de très très bonnes journalistes femmes et qui veulent qu'ils soient un point d'honneur à faire le métier.
Non, mais là, par contre, en Espagne,
on parle de décor, c'est pas pareil.
Il y a des journalistes femmes
qui font leur métier. Mais
en Italie, ça s'est fait pendant longtemps.
Oui, mais c'est pas pour ça que c'est bien.
C'était le réserve de femmes à joueurs.
Oui, mais c'est pas pour ça que c'est bien, Daniel.
C'était bien. Je te dis, est-ce que ça plaît ou pas?
Mais Berlusconi, quand il a créé la 5.
Monsieur, mais ça a bien évolué dans un sens. Restons comme ça. On va pas mettre deux nanas derrière Gilbert, quand même. Enfin, on va pas rétro-pédaler 20 ans en arrière.
Mais Simone,
il faut mieux qu'elle soit derrière Daniel que devant, parce que sinon...
Ouais. Sinon, on verra plus Daniel.
Oui, voilà. Qui est devenue la femme
d'accord. Et elle fait une chaîne... Ah, d'accord.
Elle travaille. Elle est consultante par des football, comme il y a Pierre. Là, il y a Vandana
Pierre qui parle.
Je sais pas pourquoi tu la compares à moi.
Ça n'aide pas beaucoup, quand même les négociations.
Pierre ou pas quand même?
Elle est agent, elle est consultant, c'est...
À quel niveau mieux? À quel niveau?
Bah, elle connaît très bien, quand tu parles de l'Inter, elle connaît très bien tout ce qu'on dit, je pense qu'elle est...
Oui, alors
ah ouais, elle est bien
renseignée par l'Inter. Que sur Pierre est pas terrible, par exemple.
Ouais. Les autres,
pas, pour je n'ai pas de mec dans le vestiaire du PSG.
Les autres soucis d'Espalletti pour lesquels aujourd'hui on parle beaucoup d'un probable départ d'Espalletti en cas de match perdu ce week-end à Parme.
Ah oui, carrément?
Ouais.
Mais vraiment?
Ouais. Wow. Et on parle aussi d'un possible intérim de Cambiasso parce que Conte ne veut pas prendre l'Inter qui est la première choix et qui a déjà manifesté, on peut dire, un intérêt pour l'Inter, veut pas prendre un club en milieu de saison. Il aurait pris le Real Madrid s'il avait
donc eu s'ils font une transition ils la font avec Cambiasso.
Cambiasso pour enfin, jusqu'à la fin de la saison
ils la font avec Franck Passy.
Bah, écoute, pareil. Ancien joueur du club.
Les autres deux trois choses sur les autres deux trois problèmes de Spalletti sont Perisic qui avait dit pendant le mercato d'hiver qu'il voulait partir, dont Marotta, directeur général, avait dit oui, Perisic veut partir, il est pas parti donc il reste, mais il boude beaucoup. Il y a Candreva qui n'en peut plus présenter sur les terrains, Nainggolan qui avait été suspendu parce qu'il était arrivé en retard.
Nainggolan, franchement, c'est pas possible, Nainggolan.
Après, il y a encore, imaginez les supporters qui ont vu Nainggolan arriver et Zaniolo, qui a marqué encore ce week-end.
À Milan ont vu Nainggolan arriver.
Ouais, bah là, c'est la fête.
Ah, c'est la fête.
C'était prévu.
Je te le disais, c'est à Rome, au moins, il est un peu surveillé. C'est une ville où il y a des mecs à Milan, tu parles.
Donc, Spalletti qui avait imposé, ou quand même, il avait forcément dit qu'il voulait Nainggolan à l'Inter. Son homme de confiance, celui qui rate les pénaltys les dernières face à la Lazio, encore en Coupe d'Italie, qui élimine l'Inter, c'est les paris moins réussis de cette mercato récente de l'Inter. Donc rien ne va plus à l'Inter, et comme j'ai dit, Spalletti très fortement menacé. Seul souci, un peu comme vous parliez avant de Garcia à Marseille, si on vire Spalletti aujourd'hui, il a 4 millions et demi nets par an jusqu'en 2021, ça va coûter une fortune. Un club qui, quand même, dans son dernière saison, n'est sous contrôle
de pas faire ce qu'il veut.
Simonet, je te laisse le choix entre nous parler de la Juve ou de Naples.
Juve, parce que au-delà de cette...
C'est quoi cette période, là?
Bah, déjà, tu joues avec les 4e et les 5e défenseurs centrales. Ouais. Je sais pas si on doit penser aux grands clubs d'Europe. Je sais pas si on les connaît, peut-être, les
4e et 5e. C'est comme si l'OM jouait avec Abdennour demain.
Peut-être, après, c'est pas la
même. Il est dans le groupe.
À niveau comptable, oui...
Non, mais après, pour un grand club, ouais, c'est
Bonucci et Chiellini sont blessés. Benatia, qui était le troisième, il est parti.
Ah oui, c'est vrai qu'on sait qu'ils n'ont pas gardé l'extraordinaire Bedi Benatia.
Il a voulu partir.
Ah, c'est bizarre.
Les quatrièmes se sont gagnés et sont allés récupérer.
Dans le golf, ah, ouais. Ouais.
Ils sont allés récupérer Caceres, qui avait joué 4-5 matchs avec le Lazio cette année, mais il connaissait la maison, donc ils sont allés les récupérer. Donc, historique.
Ah, c'est vrai, c'est un ancien Lazio, il était, je sais pas ce qu'il vaut maintenant.
C'est la troisième fois qu'ils reviennent, ouais, mais.
Moi, sur FUT, je suis monté deux divisions avec lui quand je jouais à l'époque. Super défenseur.
Tu devrais te mettre à mon petit gazon, c'est beaucoup.
L'histoire très intéressante de ce week-end, au-delà des trois buts encaissés et doublé de Gervinho, qui c'est mon cador, c'est celle de Dybala. Dybala qui ne joue pas, encore une fois. C'est la 4e fois de la saison qu'il reste 90 minutes sur le banc. Et à la 87e minute, dernier changement de Allegri, c'est Bernardeschi qui sort pour Emre Can. Qu'est-ce que fait Dybala? Il était sur le banc, il est en train de s'échauffer. Il prend et rentre au vestiaire.
Ah.
Chose qui, pour la Juve,
c'est
gravissime.
Ah oui.
Il n'y aura pas des sanctions financières. Mais à l'interne, ça fait beaucoup énerver les dirigeants, ça fait beaucoup énerver Allegri.
Mais donc, le trio devant, Dybala, Mandzukic, Ronaldo, c'est
pourquoi aujourd'hui, c'est Douglas Costa, le titulaire. Aujourd'hui, c'est Douglas Costa. Même, aujourd'hui, en ce moment, même si Dybala a joué sur 19 matchs de la saison en Serie A, a joué 16 titulaires.
Ouais.
Chose comme ça. Mais aujourd'hui, après ces gestes-là, Dybala perd quelques mètres dans la hiérarchie. Et imaginez que Dybala devait être la star qui monte avant l'arrivée de Cristiano. Aujourd'hui, même un mec comme Pirlo, hier, un ancien joueur comme Pirlo sur Sky Italia, dit à la fin de la saison, peut-être la Juve devra se séparer de Dybala.
Je me rappelle pas David Tranché que tu nous avais fait sur Dybala où tout allait bien il y a pas si longtemps que ça encore.
Ouais, justement, il y a quelques semaines où le trio devant
était pas mieux, quoi.
Mais parce que Dybala, il allait bien parce qu'il faisait un travail important, incroyable, mais c'est déjà, il doit jouer 10-20 mètres plus loin du but. S'il commence encore plus à ne pas jouer, ou il doit rester s'échauffer pour 30 minutes, lui quand même, il se considère un titulaire. deux, qu'il y a un changement en affaires, ou qu'il y a un des trois à sacrifier, c'est toujours Dybala, parce que Ronaldo est intouchable, et Mandzukic, aujourd'hui, c'est l'homme fort de la Juve, même s'il fait une erreur à la 93e minute, qui amène les troisième buts de Parme. Mais aujourd'hui, il y en a deux sur toi qui sont intouchables. Donc, si tu dois changer quelque chose, c'est Dybala, et Dybala, apparemment,
ne l'accepte pas.
Mais c'est donc je retiens ton Cador Gervinho et ton flop donc
Spalletti, j'en ai déjà parlé, et Gervinho 8 buts cette saison en Serie A, le max qu'il avait fait c'était 9 buts en 2014, donc avec 16 matchs à jouer, Gervinho va probablement récupérer son record.
Et sans Rudy Garcia, dis donc.
Il est arrivé gratuitement à Parme, on rappelle, un joueur qui est en train de faire des très bonnes choses, qui arrive rapidement.
Il était pas barré loin.
Il était en Chine.
C'est bien mais ce retour.
Il a une qualité physique qu'on ne pouvait pas imaginer. Donc, parfois, il ne faut pas avoir beaucoup d'argent pour faire un bon mercato. Ça suffit d'avoir des bonnes idées et d'aller récupérer des joueurs qui ont de la qualité, mais qui sont partis en Chine, qui ont envie de rejouer dans un championnat plus important.
Et il met des beaux buts en plus. Hein.
Il met des buts extraordinaires.
Une belle majeure.
Une majeure à cet week-end. Il avait fait deux fois un coast-to-coast cette saison. Donc,
c'est pas le vrai coast-to-coast, c'est de genre jouer.
Ce qui est au foot est plus dur qu'au basket quand même.
Plus rare. Ouais. Messieurs, dames, attention. Le retour de l'ortho. Jingle.
Comment sont gérées les actualités sportives pour la natation? On a bien repéré que il y a eu une vague, si je puis dire.
Tu découvres le jingle, forcément, ça doit te paraître quand même assez incroyable.
Bon, ça me donne pas de toi.
Pas tant que ça.
Il est autosuffisant l'humour, l'ortho.
Pas si y a que ça.
Attention, l'ortho a un avis tranché sur la Bundesliga 2019, et là, ça va envoyer du lourd.
Oui, alors, même si Strasbourg, Gilbert, n'est pas du bon côté du Rhin,
malgré que certains voudraient que les choses changent.
Il n'y a pas besoin cette saison d'avoir...
T'as vu ce délire-là de vendre l'Alsace et la Lorraine?
Ah,
c'est fake news.
On pourrait enfin jouer dans un championnat à notre niveau.
Alors là, j'ai même plus besoin d'argumenter. Oui, ce que je voulais dire ce soir, on en a déjà un peu parlé au fil des semaines depuis le début de saison, c'est que cette Bundesliga 2018-2019 est la plus intéressante, la plus belle peut-être depuis une bonne décennie.
En fait, c'est à chaque fois que le Bayern n'écrase pas tout finalement.
C'est peut-être ça. Alors, effectivement, il y avait en Allemagne cette espèce de, j'allais dire chape de plomb. C'est pas une chape de plomb, mais les gens étaient écrasés, les supporters de tous les clubs. Il y a beaucoup de places fortes quand même en Allemagne, dans la Ruhr, et pas seulement. Il y a Hambourg, il y a plein de clubs qu'on peut citer. Et on était un peu.
On en avoir marre de l'écrasante domination.
Et surtout, on avait pris des réflexes. C'est-à-dire que aujourd'hui, même. Au Bayern, et on va en parler peut-être dans deux minutes, au Bayern, on est surpris, on avait des réflexes depuis 5-6 saisons qui s'étaient installés, quand on menait 1-0, on gagnait, etc. Et aujourd'hui, c'est plus pareil. Aujourd'hui, non seulement Dortmund fait une magnifique saison, et on le sait, ils ont 7 points d'avance sur le Bayern, mais en plus de ça, on a un Borussia Mönchengladbach que je vante régulièrement aussi comme un potentiel candidat au titre.
À leur deuxième place.
Voilà, ils sont maintenant deuxième, ils ont une meilleure différence de but même que le Bayern, donc ça fait trois, ne serait-ce que pour la course au titre, Gilbert, ça fait trois clubs qui sont susceptibles de remporter le titre en fin de saison. Et ça, mine de rien, si tu remontes un peu dans l'histoire, c'est pas si fréquent. La dernière fois, vous souvenez sûrement de cette saison complètement folle où Wolfsburg est champion, par exemple avec le Brésilien Grafitch, vous vous souvenez,
bien sûr,
2009,
bien sûr.
Donc ça fait exactement 10 ans. Il y avait 4 champions qui étaient possibles cette saison-là en fin de saison. À la dernière journée, on avait Berlin. Alors Berlin, ok, il devait gagner 25-0, donc il y avait peu de chances qu'il soit champion, mais il y avait quand même le Hertha Berlin.
Bundesliga, tu sais.
Il y avait, voilà, exact. Il y avait le Bayern et il y avait Stuttgart. Finalement, c'est Wolfsburg qui a été titré cette année-là et tout le monde était emballé par cette saison magnifique. Wolfsburg entraîné par Magath, enfin ils avaient fait une super saison. Et si on veut retrouver d'autres exemples, je vais pas être long, mais on peut en retrouver un, 1992, Dortmund, Francfort, Stuttgart, le VfB Stuttgart est champion à la 34e et dernière journée, 84e minute, une tête d'un joueur que dont nos consultants se souviennent sans doute, Guido Burwald, champion du monde 90.
Oui, Burwald.
Voilà, joueur de tête.
Joueur
et
plein de
à 5 minutes de la fin, il décide du titre pour le VfB Stuttgart. Alors, je suis remonté un peu loin, 92, mais pour vous dire qu'il y a finalement
très peu d'exemples, et Daniel, tu as raison, c'est les saisons où le Bayern est moins fort.
Parce que de toute façon, la tradition en Allemagne, c'est une année bannière, une année oui, une année non, une année oui, une année non.
Exact.
Parce que tradition,
ils ont 25, 26, 27 titres.
Parce que c'était une année oui.
Voilà, exactement. Et, voilà. Mais c'est ça, quelque part, c'est surprenant, parce que, encore une fois, il y a eu des réflexes forts qui se sont pris depuis 5, 6 saisons, et on est aujourd'hui en Allemagne très surpris, à tel point que, on commence à faire un petit peu un jeu de paris pour savoir qui va être champion, et dans la presse aujourd'hui
même. Vachement favori Dortmund quand même, non?
Alors oui, dans la presse aujourd'hui même, on commence à parler de Gladbach.
7 points d'avance, on se dit qu'il y a encore un gros suspense. Je dis pas que c'est mort, hein, mais quand même,
le truc, si tu veux,
on sait quand l'avance.
En fait, tout parle pour Dortmund aujourd'hui. C'est la seule équipe qui a vraiment des arguments aux quatre coins du terrain. C'est la seule équipe qui s'est réellement rajeunie. Ils ont pris 2-3 saisons peut-être d'avance sur le Bayern au niveau du rajeunissement. Si on prend là les joueurs qui sont absents au Bayern actuellement, qui vont revenir, il y a Ribéry, 35 ou 36 ans, Robben, 35 ans, Thiago Alcantara n'est pas aussi âgé.
Et mais s'ils sont pas trop pillés même pour l'année prochaine, le Dortmund sera encore là et le Bayern peut
bien sûr
mal.
Bien sûr, parce que là ils ont commencé à construire un vrai projet intéressant, sportif, financier aussi, mais sportif, pour lequel ils sont évidemment ils ont de vrais arguments.
Dortmund, on le dit pas assez, c'est un énorme budget. Énorme budget. Ah,
depuis qu'ils ont été renfloués, alors je voudrais pas me fâcher avec les supporters de Dortmund, mais depuis quelques saisons où Lyonnais avait donné un petit coup de main, quelques millions d'euros comme ça, pour remettre un peu Dortmund à flot, ils se sont bien refaits.
On fait genre de truc en Allemagne.
Oui, ça se fait. Si, ça se fait.
Non, il y a que les Qataris qui font ce truc là, dégueulasse.
Non, mais c'était rien du tout, c'était 5 ou 10 millions d'euros.
Ah bah, oui, tu files un coup de main
pour voir.
Ça, c'est ce que tu sais. Merde alors, quoi.
Ouais.
Lyonnais, s'il occupe pas que de saucisses alors.
Et donc, non, mais pour en finir avec.
Pour conclure.
Voilà, sur cette belle Bundesliga, il y a la course au titre, mais il y a aussi derrière, et on en parle régulièrement, les clubs qui sont susceptibles d'aller en Ligue des Champions, évidemment Hoffenheim, évidemment l'Eintracht Francfort avec Sébastien Haller, le français, évidemment Wolfsburg aussi, qui n'est pas bien loin en termes comptables et qui peut aussi lutter, et puis pour la descente aussi, il va y avoir une furieuse bataille pour ne pas descendre, avec là aussi des grands clubs, Stuttgart qui est mal en point encore et d'autres, donc on a vraiment une Bundesliga qui est à mon sens la plus intéressante depuis 10 ans.
Que la Bundesliga est géniale parce qu'il y a des gros qui peuvent descendre quand même.
Non mais ça fait partie des arguments qui te permettent de dire que chaque week-end,
parce que nous quand les gros sont derrière on dit que c'est parce que la Ligue 1 est pourrie quoi.
Le championnat, regarde, moi je vois pas pourquoi l'Allemagne, quand même grand pays de football, on est d'accord, oui. Pourquoi ils jouent à 18 et nous on continue à 20 alors que resserrer l'élite nous ferait beaucoup de bien.
Ça a souvent été le débat.
Resserrer l'élite nous ferait un bien énorme.
Alors, en plus t'as pas de coupe de la Ligue, t'as une coupe qui se joue pas en match aller-retour, enfin en Allemagne on joue, je veux pas dire qu'on joue jamais, mais on joue moins.
De la Bundesliga qui te passionne et tout, la défaite du Bayern ce week-end qui profite pas, il faut pas de Dortmund et tout, c'était vu comment ça.
Alors là c'est un peu tôt encore pour vraiment savoir, mais autant Simone évoquait tout à l'heure des petits soucis, des choses comme ça dans des vestiaires de gros clubs en Italie, autant en Allemagne on a encore du mal à vraiment savoir si Kovac, j'ai été peut-être un peu optimiste moi ces derniers temps parce qu'ils ont réussi 7 victoires d'affilée le Bayern avant de rechuter ce week-end contre Leverkusen, on a un peu de mal à savoir si vraiment c'est pas un peu distendu malgré tout entre toutes ces stars. Il y a beau avoir un effectif très réduit.
Tu nous as dit il y a une semaine ou deux semaines, je sais plus, que Kovac était l'homme de la situation.
Oui, alors, mais c'est...
Alors, je veux pas te...
Non, mais moi,
Pierre, ce petit jeu de rappeler ce que les allées ont dit il y a quelques semaines, si tu fais ça dans l'after, tu vas avoir des surprises.
Mais c'était vraiment l'avis de David, hein, David, je me trompe pas.
Oui, mais moi, je crois...
Mais c'était à l'époque, c'est pas ce soir.
Il y a une semaine, quoi.
Si tu me demandes mon avis à moi, je te dis, le Bayern peut encore être champion. Si tu demandes leur avis aux gens du Bayern, ça commence déjà à être un peu moins évident. D'accord. Et un Kimmich qui disait encore il y a 15 jours il faut pas qu'on perde un point dans les matchs retour, bah là avec 3 points perdus ce week-end c'est eux qui font la mauvaise opération.
Oui, c'est dur de pas perdre un point.
Bon messieurs, laissez un peu de place au vrai championnat qui a vraiment de l'intérêt, c'est-à-dire l'Espagne. C'est dans quelques instants avec Fred. Je salue notre ami Hussein, notre ami qui suit le championnat turc, qui nous signale que ce soir il y a une excellente perf de Mitroglou pour son pré-match avec Galatasaray. Oui. Il dit non, en fait je rigole, il a joué 55 minutes, il était nul.
Ah oui, c'était avant-hier en plus son premier match.
Ouais.
Je sais pas contre qui il jouait, je jouais pas contre Antalya Sport.
Peut-être. Non, Antalya Sport c'était Besiktas. Donc j'ai vu un bout du match.
Il joue tous les deux jours.
Non, il parlait du dernier match.
Dernier match de Galatasaray.
Il était mauvais. Pourtant, il y avait une cote sur les sites français sur un premier but de Mitroglou.
Il fallait pas la jouer.
Non.
Dans quelques instants, nous sommes de retour avec les drôles de dames, bien sûr, dont Simone Rovera qui est là, Julien Laurence toujours à l'écoute. À tout de suite. Jusqu'à minuit, nous sommes la Pierre Ducrot, Daniel Riolo, les drôles de dames, plus Vincent, notre premier finaliste de l'After Academy. Attention Vincent, là, ce qui va se passer va t'intéresser. Ouais. Parce que Fred Hermel veut parler du Barça et de Messi qui affronte ton club dans quelques jours. Jingle, Fred.
Il y a Florentino qui était sur la fait. Mais qu'est-ce que ça Fred Hermel, tu parles de Barça. Mais qu'est-ce que ça?
Qui était coupe la ligne.
Alors, fini.
Je pense que ça
c'est c'était qui l'accent espagnol? Je te coupe la ligne.
Non, très mauvais.
Ouais, non, c'était pas bien du tout. Là,
non, très mauvais. C'est toi, non?
Ah non, c'était pas moi. Non, c'est pas moi.
Non, c'était Jérôme.
Ah, c'était peut-être Jérôme. Ça, là.
Je me serais pas permis de faire ça.
Jérôme, c'est vrai, par jour, on aurait dit un mauvais lexique. Hein. Alors, donne des nouvelles de Messi. Il y a quand même un programme dingue pour le Barça, et donc tout le monde s'interroge sur Messi, hein, parce qu'il y a Lyon, mais il y a aussi le Real dès mercredi.
Bah mercredi, après-demain. Et donc, alors pour revenir à ce qui s'est passé samedi soir, c'est que Léo Messi, après avoir marqué un doublé qui a permis au Barça d'égaliser face à Valence au Camp Nou, à un moment il est sorti, voilà, il s'est fait soigner à l'intérieur de la cuisse gauche, là, voilà, pas loin des adducteurs, voilà, une petite bombe magique, etc. Puis il est revenu, puis on voyait que Messi était pas en forme, etc. Et c'est surtout, alors moi je fais plutôt que les communiqués et la communication des clubs, je préfère écouter les joueurs. Et quand dans l'interview sur la pelouse, juste à la fin du match, Rakitic parle d'une inquiétude en disant, ben, on espère que Léo c'est pas trop grave, qu'il sera là très vite, etc. Bon, d'un côté on a le Barça qui se veut très rassurant, et de l'autre on a quand même l'inquiétude d'un joueur. On nous dit, mais de toute façon il n'y a pas de problème, c'est une petite contracture, pas de problème, dimanche il va être tranquille à la maison, puis il viendra s'entraîner lundi. Bon, et là on apprend qu'hier il y avait repos pour tout le monde, mais que les médecins sont quand même allés voir médecin du Barça, Messi chez lui. Et puis ce matin il n'était pas à l'entraînement. Puis on a dit, mais non, c'est qu'une contracture, mais on va pas faire d'examen. Puis finalement, on devait faire un examen aujourd'hui. Puis finalement, finalement c'est demain. Ouais, mais sauf que demain, c'est veille de match. Donc, il y a quand même une vraie question. Donc, moi, c'est pas un avis tranché.
Bah, donc, il jouera mercredi, alors.
Je relaie cette question. Parce que du côté du Barça, on dit qu'il n'y a pas de problème. Enfin, Pierre, on en a discuté hier soir.
En général, Fred, quand tu fais pas l'imagerie, enfin l'examen tout de suite, c'est parce que tu veux attendre que le saignement soit passé un petit peu pour voir ce qu'il y a. Donc c'est qu'il y a quelque chose déjà.
Ben voilà, le truc c'est qu'il n'y a pas, on nous dit qu'il n'y a pas de lésion, c'est-à-dire il n'y a pas de rupture de fibre, mais qu'il y a une contusion. Une contusion, ouais. et une contracture.
Les mots sont importants.
Donc, oui, mais ça veut dire quoi? Si tu joues avec une contracture face au Real, 3 jours après tu vas jouer à Bilbao contre là, et là tu peux vraiment risquer là dans 15 jours contre Lyon. Et raison pour laquelle il fallait absolument parler de ce sujet-là, parce que s'il se pète après,
c'est l'adducteur en plus. Fred.
C'est juste en dessous de l'adducteur, mais c'est un peu étrange. Mais cet optimisme dans la communication du Barça ne correspond pas aux faits, et j'insiste au dire de Rakitic. Et on sait très bien. Pierre, toi le premier, qu'un coéquipier voit sur le terrain, voit très bien quand son partenaire n'est pas bien.
Bien sûr.
Moi, j'espère qu'il va vraiment se reposer et qu'il jouera pas contre le Real, parce que je veux absolument qu'il vienne à Lyon et qu'il joue contre nous. Je veux absolument qu'on joue contre un Barça en pleine possession de ses moyens, d'autant que j'étais vraiment déçu.
Si ils sont affaiblis et que vous vous qualifiez, c'est bien aussi quand même.
Oui, c'est bien.
Je vais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure. Moi, je voulais absolument qu'il y ait Neymar contre nous aussi.
Non, mais si jamais.
Tu disais Vincent que Neymar ne joue pas, tout le monde s'en fichait parce qu'il y avait encore des joueurs sur la pelouse, Mbappé, Pogba, etc.
Non.
Neymar, la présence de Neymar est importante aussi.
Oui, mais je disais qu'il y aurait pas moins d'audience et que c'est quand même super intéressant, c'est suffisamment intéressant.
Encore,
je veux dire,
pour que
Manchester avec tous les joueurs qui a
Lyon Barça même sans Messi, non, mais non, vous savez pas là, c'est mieux, hein.
Vous savez que la dimension médiatique qu'a pris la blessure de Neymar.
Messi face à Marcelo, là tu le vois comment?
Non, moi je vois Messi. je suis plus Ferland Mendy qui va. Enfin, j'espère qu'il. C'est plus lui qui va être apte pour moi à tenir. Et Denayer. Voilà, j'ai plus confiance en Denayer et en Ferland Mendy.
Denayer, en ce moment,
moi,
il est chaud.
Je comprends qu'un supporter de l'OL ait envie à Gerland de voir Messi, quoi. Parce que c'est pas tous les ans, quoi. Voilà. Donc, je commence à très bien. Mais là, d'où la question qui se pose à Madrid. Alors, bien entendu, à Madrid et dans les médias madrilènes, mais bien entendu dans les médias barcelonais, est-ce que Messi doit jouer, oui ou non? De toute façon, ça sera une décision de Messi avec son entraîneur. Après, un classico, c'est toujours très bandant très excitant, pour un joueur. Voilà. Et c'est quand même une demi-finale de Coupe du Roi. Il y a quand même un match retour le 27. Ouais, c'est quand même beaucoup de données, un dilemme énorme pour l'entraîneur.
C'est quand le match aller?
C'est mercredi.
Mercredi, après-demain donc, hein.
Après-demain.
Et c'est pas entraîné. Est-ce que Fred, est-ce que la question se pose si c'est pas Lyon en face en Ligue des Champions, mais que c'est un plus gros d'Europe? Est-ce que la question se poserait encore?
C'est-à-dire, est-ce qu'on ferait pas automatiquement l'impasse sur la Coupe du Roi pour jouer la Ligue
des Champions? Pas si c'est le match contre le Real.
Lyon est une équipe très respectée, je l'ai dit des milliers de fois depuis le début de la saison, mais s'il veut la Ligue des Champions,
pas assez de
Barça. Voilà, et donc Lyon c'est un rival très très respecté ici en Espagne. Donc c'est d'accord. Un cadeau en européen ici, on a pas oublié ce qu'a fait l'OL pendant des années quand il a joué notamment contre le Real, parce que c'est vraiment un classique.
Oui, voilà, c'est pour ça qu'on est respecté, parce qu'on les a sortis.
Ben ouais, bien sûr. Donc c'est voilà, Lyon, quand on dit Lyon en Espagne, ben on dit ben c'est pas forcément un super tirage. Donc la question se poserait pas si c'était Manchester United ou si c'était City ou Lyon. C'est un huitième de finale contre une bonne équipe européenne. Hein, ça va être compliqué hein, pour à gérer, pour parce que quoi qu'il fasse, si Messi joue et se fait mal, on dira ils ont fait une erreur. Et si Messi ne joue pas et que le Real fait un bon résultat, on dira ben on aurait dû être Messi. Donc finalement c'est un peu d'un point de vue psychanalytique une double contrainte. Je vous laisse rechercher ça sur Google.
Très bien, bravo Fred. Ton top et ton flop du week-end?
Le top, ça fait plaisir. Vous vous souvenez de Sergio Canales, ce petit génie du Racing de Santander, qui a été passé par le Real, qui a joué à Valence, qui s'est fait trois fois les croisés. Trois fois. Et il joue au Betis, futur adversaire la semaine prochaine, de Rennes. Et donc Canales qui fait une magnifique saison avec le Betis, qui a fait un match extraordinaire hier. C'est vraiment un milieu offensif ultra technique comme moi je les aime et comme les amoureux de football en Espagne adorent. Et Canales a mis le penalty qui a permis au Betis de l'emporter face à l'Atlético de Madrid. Donc ça fait du bien de revoir cet espoir du foot espagnol qui, j'insiste, s'est fait trois fois les croisés, les ligaments croisés du genou, de le revoir à ce niveau-là.
Et puis tu voulais dire un mot du FC Séville également qui va pas fort là.
C'est-à-dire que Séville avait battu le Barça au match aller de quart de finale de Coupe du Roi. Ils ont pris 6-1 la semaine dernière au Camp Nou et on a l'impression qu'ils sont toujours au Camp Nou, qu'ils n'ont pas qu'ils sont toujours groggy et c'est gênant et les choix de l'entraîneur sont un peu compliqués, etc. Et là ils ont perdu ce week-end sur la pelouse du Celta, le Celta Vigo qui respire un petit peu. Séville, oui, ça a souvent été mon top cette saison, mais là c'est un flop, c'est un bidon parce que parfois et Pierre le sait, une grosse défaite moralement ça peut faire très très mal.
Tu sais Pierre quand même hein, depuis tout à l'heure.
Ce qui me gêne c'est que
Fred fait appel à mes souvenirs. Non, mais tu parles souvent de grosses défaites, ouais.
Ouais, c'est vrai.
Daniel, toi qui as joué à très haut niveau de football.
Pierre le sait. Et Pierre le sait, et je parle sur le contrôle de Pierre, et Pierre le sait.
Parce que Fred a cette humilité, cette humilité.
En finale contre l'Union, et comme l'a vécu Pierre,
Non, mais Fred a compris qu'en tant que journaliste, il a pas vécu des choses que nous on a vécu sur le terrain, et parce que moi je sais que journaliste, vous avez des compétences que nous, anciens joueurs, on n'a pas.
Exactement.
C'est uniquement ça.
Tu vois, par exemple, si un truc, comment, organiser une soirée, coquine à Paris, là, Daniel, mais je te pose la question tout de suite.
Tu vois, soirée coquine, c'est bonjour, Daniel. Voilà.
Oui, de aussi. Vraiment
ne comprends
un truc
pas mal,
de...
mais tu comprends, tu n'as rarement pris 5-1.
Je connais bien Daniel, il est pas très coquin.
Non, c'est pas très ça finalement.
Prends soirée en tout cas.
En revanche, des bruits circulent sur Julien Laurence malgré sa discrétion. Sur sa connaissance de Londres.
Quel genre de bruit?
Sur ta connaissance de Londres, je sais pas pourquoi de plus en plus on parle de ça.
Bon. C'est vrai?
Alors,
c'est
il nous reste.
Sur une réunion, hein.
Mais
non, c'est pas vrai.
Il nous reste 2 minutes.
Je sais que c'est pas vrai.
Une dernière info pour chacun, là. Parce que je sais que Simonet tenait à nous donner une dernière info sur Hamzik, notamment.
Oui. Qui a déjà signé son contrat avec le club chinois de Dalian. Il va partir dans les prochains jours.
Dalian. Donc, club chinois de quoi?
Dalian Shai.
Le club de Luc Dalian.
Non, après 11 ans passés à Napoli, il va partir. On rappelle, 520 matchs, 123 buts. Les joueurs plus capés, meilleur buteur de l'histoire devant Maradona. Il va partir pour environ 20 millions d'euros que Naples récupère donc en février. Choix presque obligé, soit pour le club que pour lui de partir. Même si pour moi, je regrette un peu parce que Naples aurait pu quand même gagner l'Europa League ou faire d'autres choses. Et lui, capitaine, aurait pu rester jusqu'à la fin de la saison.
Ouais, c'est dommage.
Un mot sur Jérôme Roussillon, Gilbert, parce que j'ai pas
si
fait
tu veux, pas 55, Jérôme Roussillon.
Oui,
monsieur. Ah, puis il est tombé nulle part, lui.
Mais non, mais ancien footballeur. Non, parce que je voulais en faire mon cadeau. Alors ça vous fait rire, mais il est quand même décisif avec Wolfsburg, qui est un bon club de la Bundesliga de cette saison. Ils sont 6 ou 7e. Et c'est grâce à lui, grâce à sa niaque sur le côté. Il a encore été passeur décisif ce week-end.
On va revenir avec des nouvelles de Paul-Georges Ntep la prochaine fois.
Oui, on peut faire le tour des Français de Bundesliga, il y en a un certain nombre quand même. Mention à Roussillon donc.
Très bien, bah écoute,
bon, je vais bien comme joueur, moi.
On le félicite et je voulais conclure en vous disant qu'Atem Ben Arfa avait décidé d'attaquer le PSG au prud'homme. Il demande 7 à 8 millions d'euros.
J'ai de finir avec ça.
Après, ça vise à l'écart. Voilà, bah, il se défend, hein. Voilà, il a le droit, on verra s'il gagne.
Non, j'ai vu quelque chose, excuse-moi.
Oui, Vincent.
C'est, il l'a attaqué, pour harcèlement moral, ça que j'ai pas compris.
Non, il demande rien pour le harcèlement moral, il demande 1 euro
symbolique. Oui, il demande 1 euro symbolique, mais quoi il s'est fait. Pourquoi il s'est fait harceler moralement parce qu'il est mis à l'écart? C'est ça que j'ai pas compris.
Il y a 50 pages dans le dossier, ça doit être marqué dedans.
Ouais, 50 pages de dossier quand même. Hein.
Ouais, pour moi j'y crois pas trop.
Il a bossé son avocat Bertrand.
J'y crois pas trop.
Il a bien se lancé avec ses dossiers.
Ouais, à la finalité.
Après 8 millions d'euros, voilà, pour le PSG.
C'est beaucoup. Dans une période où il y a le fair play financier, etc. C'est beaucoup.
Vise une transaction.
Ah oui, c'est, oui, vu comme ça, oui.
Ouais, une info pour Daniel, parce qu'il dit que je veux pas lui parler. 18e but de Benzema, encore marqué ce week-end.
Je pense. Voilà, je pense qu'on finisse là-dessus. Au courant, Fred. Tu sais.
Ah, au cas où, tu sais.
Parce que non, moi, j'ai une photo dédicacée Karim Benzema et pas toi.
Non, parce que moi, je ne demande jamais de photos ni de signatures.
Toi, t'avais déjà cherché lui dans ta chambre dédicacée. Moi, j'ai une photo.
Messieurs, c'est fini. Vincent, merci d'être venu.
Merci à vous.
J'espère que t'as passé une bonne soirée.
Salut Vincent.
Vous êtes sympa.
Salut Vincent.
Bonne
voix. On dirait pas de l'extérieur.
On t'entend bien de loin.
Non, c'était super. Je vous remercie tous.
Merci à toi Vincent.
Demain, la suite de notre After Academy. Demain soir, Coupe de France, le Rotenico, Bastia Caen.
L'after après un match. Et puis
Marseille-Bordeaux aussi. Demain, évidemment, dans l'after au programme.
On va mettre à sa place Marseille-Bordeaux.
Salut les drôles de dames.
J'oublie parfois.
Et à demain à 20h. Ciao.